Bonsoir tout le monde, s'il n'y en est pas beaucoup. Et bienvenue à cette première soirée d'une série de 5 consacrée à l'évangile selon Jean. Alors, avant de nous pencher sur cet évangile en lui-même, nous allons essayer de situer un peu son contexte général de rédaction, c'est-à-dire l'intention de l'auteur au moment où il a écrit cet évangile, pour qui a-t-il été écrit cet évangile, qui sont les destinataires, et qui est cet auteur ? Pourquoi peut-on parler de l'évangile de Jean, puisque le nom de l'auteur n'est cité ni en introduction, ni en conclusion du récit, et nulle part ailleurs dans le texte d'ailleurs. Alors cet évangile, comme les autres, est un récit qui se concentre sur Jésus et sa mission messianique. L'évangéliste nous donne de manière très claire ses intentions, son but et la manière dont il s'est pris pour raconter cette mission de Jésus, du moins en partie. C'est à la fin du récit, paradoxalement, qu'il nous livre une clé de lecture. Dans les premiers versets qu'on va lire, c'est dans Jean 20, le verset 28 à 31. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus, heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus accomplit sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Donc, on voit déjà dans le contexte, Thomas, les autres ont vu Jésus ressuscité. Thomas a raté la réunion où ça s'est passé. Et puis, ils lui disent, on a vu Jésus ressuscité. Et Thomas ne croit pas le témoignage de ses amis, des autres disciples. Et donc, Jésus lui dit, le reprend, il va croire, finalement, c'est un sceptique qui a besoin d'être convaincu, mais après, il va croire. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc cette béatitude, c'est celle qui se trouve au dernier verset, on saute un verset là, mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous possédiez la vie en son nom. Donc les lecteurs de Jean sont ceux qui sont heureux s'ils croient sans avoir vu. Et comment l'évangéliste s'y est pris pour faire croire, pour amener son témoignage, il a choisi une biographie sélective de Jésus. Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Donc on voit que Jean a fait une sélection, il n'a pas tout dit. Il avait un but quand il a écrit son évangile. Mais ce qui s'y trouve a été écrit, donc les signes miraculeux qui ont été mis par écrit, a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qu'en croyant vous possédiez la vie en son nom. Donc cette phrase dit beaucoup de choses, la dernière. Jésus, l'être humain, dont une partie de la vie va nous être rencontrée dans ce récit, dont on a vu c'est une biographie volontairement sélective, et le Christ, c'est-à-dire le Messie, celui qui a été oint, choisi, envoyé par Dieu, celui qu'attendait le peuple d'Israël, d'après les prophéties de l'Ancien Testament, c'est aussi le Fils de Dieu. Nous verrons de quelle manière, plus tard, cela signifie chez Jean. Il est tout à la fois homme, Jésus, Messie et Fils de Dieu. Une triple définition de son identité et une identité qui est liée à sa mission pour que vous possédiez la vie en son nom. Donc croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, donne la vie. Il y a un lien entre sa personne et sa mission et ce qui va donner la vie, quoi. N'importe qui n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait et dire ce qu'il a dit. En fait, un résumé de l'évangile, c'est ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Après, tout le reste n'est que réponse. Jésus lui-même a une forte conscience de son identité et le récit des évangiles est parsemé de nombreux « je suis » dans la bouche de Jésus. Il y a au moins 7 « je suis » avec un prédicat après, quelque chose après. « Je suis le pain du ciel » dans le chapitre 6. Le vrai pain même, il dit après. Bon. « Je suis la lumière du monde » au chapitre 8, 12 et 9, 5. « La porte des brebis » au chapitre 10. Et aussi le bon berger dans le même chapitre. La résurrection et la vie, au moment où il ressuscite Lazare, au chapitre 11. Le chemin, la vérité et la vie. Moi, dans ma traduction, c'est moi le chemin parce que je suis la vérité et la vie. Et ça en fait 7. 7 déclarations de je suis. Il y a aussi 7 signes miraculeux, donc dans le symbole de la perfection employé par Jean. Je suis la vraie vigne, j'en avais oublié un, au chapitre 15. Plus des je suis sans rien derrière, des je suis tout court. Comme en Jean 8, 24 ou 8, 58, on va les lire. « Jean 8, 24. C'est parce que je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Autant croire que Jésus est le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, donne la vie éternelle en croyant, autant ne pas croire en lui, vous mourrez dans vos péchés. Que moi, je suis. Et 8, 58, encore plus fort, enfin plus fort, il réaffirme quoi. Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi je suis. Et à quoi ça fait rapport? Ils l'ont compris puisqu'ils prennent des pierres pour le lapider, ils pensent que c'est un blasphème. Ça fait rapport, entre autres, à Exode 3.14. Je vais dire le verset exactement parce que Exode 3.14 qui dit « Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. » Puis il ajouta « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. » Donc voilà ce que dit Jésus, « Je suis ». Donc les Juifs qui ont pris des pierres après pour le lapider ont compris ce qu'il disait. Ils n'étaient pas d'accord, mais ils ont compris. Nous reviendrons plus amplement sur cet aspect de la personne de Jésus, qui n'hésite pas à se mettre lui-même en avant, plus que son propre enseignement même, et à demander à ce que l'on place sa confiance en lui, en sa personne, à son identité, qu'on le croit afin d'avoir la vie éternelle, d'être libéré du péché, d'avoir sa faim et sa soif étanchées, de sortir des ténèbres, c'est-à-dire d'être sauvé. Voilà, c'est tous ces « je suis » répondent en vrac à tout ça, là, je n'ai pas tout détaillé, mais c'est sa mission, et elle sera accomplie parce qu'il est ce qu'il dit, lui seul pouvait l'accomplir, à la fois pleinement humain, médiateur pour nous, obéissant pour nous à notre place, l'agneau pour nous, et à la fois Dieu, le seul qui sauve. Donc, sa personne et son œuvre, son identité et sa mission sont vraiment indissociablement liées. Et cela a même poussé certains à dire de lui que devant ces affirmations, celles de Jésus sur lui-même, soit on le prenait pour un fou, alors nous on a des catégories psychiatriques, on dirait aujourd'hui, mais il est fou là, il faut qu'il aille se faire soigner. À l'époque, il disait, tu es un démon, tu es un samaritain, ce que veut dire un impur, un hérétique, mais ça correspondait au même à peu près. Soit un mégalomade, un blasphémateur, on a tenté plusieurs fois de le lapider, de le tuer, avant la croix, ou bien on croyait qu'il disait la vérité et on se confiait en lui. Et si ce qu'il prétend être est vrai, c'est plutôt ne pas se confier en lui qui serait une folie. Mais par contre, Jésus n'a jamais laissé la possibilité, par ses prises de position sur lui-même, sur ce qu'il advenait si on croyait en lui ou si on ne croyait pas en lui, il n'a jamais laissé la possibilité qu'on le prenne pour un simple maître de sagesse. Une option parmi d'autres pour trouver un sens à sa vie. Hein, ça, jamais. C'était où on adhérait, où il y avait un rejet, mais ce n'était pas quelque chose de mou, quoi. Jésus ne laissait pas indifférent. Et tout au long de cet évangile, on va voir des gens qui vont soit le rejeter, de plus en plus au fur et à mesure que le récit va se dérouler, soit le croire, placer toute leur confiance en lui, en sa personne. Donc, je dirais que la trame de cet évangile, on va le voir tout à l'heure en lisant le prologue, les 18 premiers versets, c'est que Jésus a été envoyé par le Père pour accomplir une mission. Et cette mission, dans cette mission, il va rencontrer de l'hostilité, des complications. Et Jésus va résoudre ces complications, il va achever sa mission, l'accomplir. Il y a la fin, tout est accompli sur la croix. Et à l'intérieur même de cette mission, il y a une autre mission dans la grande mission. Alors sa grande mission, c'est d'amener le salut. Et au cœur de cette mission, il va aussi créer une communauté autour de lui qui va intégrer à sa mission. Et comme le Père a envoyé Jésus, Jésus va envoyer ses disciples. Et comme Jésus a vécu sa mission dans un monde hostile, mais qu'il a vaincu, Jean 16, 33 nous dit « Moi j'ai vaincu le monde », de même les disciples vont témoigner de Jésus afin d'amener d'autres au salut dans un monde hostile. Et ça continue comme ça depuis 10 000 ans. Et je crois que les versets de la fin de Jean, alors c'est l'option qui m'a le plus parlé, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais Jean 20, versets 29 à 31, sont destinés à éclairer les premiers lecteurs de l'évangile de Jean, et les autres par la suite, sur le fait que Jean veut approfondir leur foi, les amener à mieux croire, afin que parmi les difficultés qu'ils rencontrent, l'opposition du monde dans lequel ils vivent, ils soient encouragés, et plus que cela, remotivés pour partager leur foi, malgré leur contexte difficile, car leur maître a vaincu le monde, et les a appelés à cela. Rappelez-vous, c'est Jésus qui a appelé ses disciples et qui les a choisis. Il le dit, donc c'est quelque chose de très, On a été choisi par Dieu. Contrairement à ce qui se faisait à l'époque. À l'époque, les gens choisissaient leur rabbi. Ah ben là, je vais prendre Rabbi, je veux dire des bêtises, Rabbi Joseph, parce que là, c'est intéressant ce qu'il dit. Puis au bout d'un, deux, trois ans, on a épuisé son enseignement, on va peut-être se tourner vers un autre rabbi. Il y avait des maîtres connus, il y avait Iliel, Gamaliel. Jésus, lui, contrairement à tous les autres, c'est lui qui a appelé ses disciples. C'était pas ses disciples qui venaient vers lui. Chaque fois que quelqu'un est venu vers Jésus, ça s'est pas toujours bien passé. Et c'est lui qui a appelé. Et donc, il y a une force dans cet appel. Nous avons été choisis. Jean 15. Alors ça, c'est les disciples mêmes. Jean 15, verset 16, les 12. 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Donc ce fruit commence par un appel de Jésus. Et après, en Jean 17, verset 24, là c'est la dernière prière de Jésus, qu'on appelle des fois prière sacerdotale, avant qu'il aille dans le jardin de Gethsémané. Et là, à la fin, il prie aussi pour ceux qui croiront en lui par le témoignage des disciples. Et au verset 24, « Père, mon désir et ce que tu m'as donné soit avec moi, là où je serai, qui contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Donc, mon désir est que ce que tu m'as donné soit avec moi. Donc, ça s'adresse évidemment aux disciples qu'il a choisis sur le moment, mais tout disciple de Jésus a été choisi par lui. Tout chrétien a été choisi par lui. Hein. Et voilà. Et actuellement encore, donc, tout lecteur de Jean qui se laisse toucher par la révélation de qui est Jésus, par la manière dont il a invité ses disciples à vivre un amour communautaire profond, un amour qui va interpeller le monde, va être lui aussi renouvelé pour partager la bonne nouvelle de Jésus. Alors, en même temps, d'autres croient, juste une parenthèse, croient, et il y a des gens très bien des deux, j'ai lu des commentateurs très intéressants des deux, croient que, pour que vous croyiez que, à la fin, là, pour que vous ayez la vie en son nom, ça s'adresse à des non-chrétiens, d'autres croient que ça s'adresse plutôt à des chrétiens qui ont besoin d'être renouvelés dans leur foi, approfondir leur foi. Ceux qui croient que c'est de l'évangélisation disent, mais quand même si l'évangélisation, l'évangile de Jean a beaucoup servi, par exemple, pour faire la théologie de la Trinité et a nourri l'Église chrétienne pendant des années au niveau de la théologie, donc ça a béni les chrétiens. Et ceux qui croient que c'était plutôt destiné à des chrétiens disent, on sait quand même qu'il a souvent servi à évangéliser aussi. Donc, il peut y avoir un peu des deux. Moi, j'ai plus été convaincu par la position que je vous ai donnée. Je vous dirai un peu pourquoi tout à l'heure, plus. Mais... Donc, on parlait des premiers lecteurs. Voilà, on y vient là. Donc, qui sont ces lecteurs? Ceux pour qui Jean a premièrement écrit son évangile. Donc, je crois qu'il y a une fois, à la fois une visée universelle, c'est-à-dire que ces apôtres-là étaient conscients qu'ils étaient en train d'écrire le Nouveau Testament. Jésus leur avait dit qu'il allait tout leur rappeler. Ils sont conscients de l'écrire. Et à la fois, Jean avait une idée, il écrivait premièrement aussi à des gens qui devaient lire son évangile. Hein? C'était un mélange des deux. Donc, l'évangile de Jean, le dernier des apôtres, on voit d'ailleurs à la toute fin de l'évangile de Jean, ça c'est l'histoire de l'Église qui nous le dit, que c'est le dernier des apôtres. En même temps, c'est soutenu dans l'évangile aussi, il y a un passage qui fait un clin d'œil là-dessus. C'est Jean 21, versets 21 à 24. Excusez-moi. En le voyant, Pierre demanda à Jésus, en voyant le disciple que Jésus aimait, qui est aussi celui qui a écrit l'évangile. Donc on verra après pourquoi on pense que c'est Jean. Où j'en suis? Ah oui, en le voyant, Pierre demanda à Jésus, « Et lui, Seigneur, qu'en est-il de lui ?» Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. En fait, Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais seulement, si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce qu'il revienne, que t'importe. C'est ce même disciple qui rapporte ses faits, qu'il a écrit, nous savons que son témoignage est vrai. Donc Jean étant celui qui vit le plus longtemps, et le dernier, certains ont déformé la parole de Jésus, se disaient, il va vivre jusqu'à ce que Jésus revienne. Et Jean remet les pendules à l'heure en disant, non, c'est pas ce qu'il a dit. Mais n'empêche que c'est le dernier des disciples vivants, le dernier des apôtres vivants, ça a été Jean. C'est le plus jeune du temps de Jésus, et ça a été, voilà. Alors, donc, cet évangile a vraisemblablement été écrit à Éphèse, vers l'an 85 à peu près, la plupart des spécialistes évangéliques pensent ça, hein, autour de, à Éphèse, donc en Turquie actuelle, hein, en Asie mineure à l'époque, en Turquie actuelle. Jean est juif, et même s'il traduit des termes hébreux en grec, par exemple Jean 6.1, le lac de Galilée, il va dire entre parenthèses, le lac de Tibériade. Jean 9,7, la source de Siloué, il va dire que Siloué, ça veut dire envoyé. Ou Jean 20,16, Rabouni, quand Marie de Magdala voit Jésus, Rabouni, il met entre parenthèses ce qui veut dire maître. Même s'il y a ça, et même s'il a écrit son évangile en grec, tout le Nouveau Testament a été écrit en grec, il semble que ses lecteurs, par contre, sont familiers avec les rituels juifs, avec les fêtes juives, les questions théologiques juives. Jean ne prend pas le temps pour expliquer en détail la signification des fêtes juives. À un moment, il y a la fête des cabanes, il ne prend pas une parenthèse en disant « la fête des cabanes parle du temps où Israël était dans le désert, c'est pour se remémorer ». Il semble que ses lecteurs, son lectorat, soit au courant de tout cela. Donc c'est pour ça que pratiquement tous les spécialistes maintenant pensent que c'est plutôt un lectorat judéo-chrétien, plutôt que grec. Qui vivait dans une culture grecque en même temps? Donc, voilà. Et toutes les questions théologiques dans Jean, avant on croyait que c'était des choses grecques, on s'est rendu compte en découvrant les manuscrits de Qumran, que toutes ces questions de lumière, de ténèbres, tout ça, c'était discuté par les gens de Qumran, par les Esséniens de Qumran. Donc c'est vraiment des questions que se posaient les Juifs entre eux. Donc on pense donc que c'était composé en majorité de Juifs ou de chrétiens en Dieu, c'est-à-dire des païens qui étaient devenus prosélytes du judaïsme et qui après s'étaient convertis au christianisme, des lecteurs judéo-chrétiens, mais qui vivaient en Asie mineure, autour d'Éphèse, d'où la traduction du terme hébreu en grec. Tout en étant familier avec l'Ancien Testament et les coutumes juives, ils étaient aussi dans une culture grecque. Ils lisaient plus facilement la Septante, c'est-à-dire l'Ancien Testament traduit en grec à Alexandrie, vers 270 avant Jésus-Christ, que l'Ancien Testament en hébreu. Et les Juifs, ou les prosélytes craignant Dieu, qui étaient devenus chrétiens, étaient menacés de renvoi de la synagogue à cette époque. C'est connu historiquement vers la fin du 1er siècle. Après la chute de Jérusalem, il y a eu un resserrement du judaïsme un petit peu. Et ils avaient besoin d'être raffermis dans leur foi en Jésus-Christ afin d'être renouvelés dans leur mission. Regardez ce que dit Jean en 16.2. En 16.2, c'est Jésus qui parle dans son dernier discours. Et il les avertit, disant... 16.1, même. Je vous dis tout cela pour que vous soyez préservés de toute chute, car on vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort t'imagineront rendre le culte à Dieu. On peut penser à Paul, là, hein, même si... Donc, Jésus les avait avertis. Et déjà, et si même on lit l'évangile de Jean, du temps de Jésus, déjà, ça commence un petit peu... Les exclusions de synagogues se font déjà. Par rapport à Jésus, déjà, ça, il y avait une menace à ce niveau-là. Jean 9, verset 22. Les parents parlaient aussi... Ainsi, parce qu'ils avaient peur des autorités juives, ils savaient qu'elles avaient décidé d'exclure de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient Jésus comme le Messie. Et Jean 12, donc là, c'est les parents du jeune homme aveugle qui a été guéri. Jean 12, verset 42, qui nous dit « Et pourtant, même parmi les dirigeants, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'osaient pas le reconnaître ouvertement, de peur d'être exclus de la synagogue. » Car il tenait davantage à l'approbation des hommes que c'est de Dieu. Certaines traductions à la gloire des hommes, à la gloire de Dieu. Donc voilà. Donc renouveler dans leur mission celle que Jésus avait donnée à ses disciples et à ceux qui allaient le suivre, continuer à témoigner de qui il était, de partager l'évangile, sachant que cela donnait la vie éternelle. Donc le récit de l'évangile de Jean, on en vient à l'auteur. Le récit de l'évangile de Jean. Le récit de l'évangile de Jean a été écrit par le disciple que Jésus aimait. C'est ainsi que se nomme l'auteur en Jean 21, versets 20 à 24. On va juste lire pour commencer cela. Jean 21, on va le relire. Verset 24. Verset 20, Pierre se retourna, aperçut le disciple que Jésus aimait, il marchait derrière eux. C'est ce disciple qui, au cours du repas, s'était penché vers Jésus. Il lui avait demandé, « Seigneur, quel est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre demanda à Jésus, « Et lui, Seigneur, qu'en est-il de lui ?» Jésus répondit, « Si je veux qu'il reste en chair, je reviens, que t'importe, toi suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut, bon ça on l'a lu, et juste après, c'est ce même disciple qui rapporte ces faits et qui les a écrits. Nous savons que son témoignage est vrai. C'est ce même disciple qui raconte ces faits. Donc, en effet, il n'est jamais dit explicitement, je le dis tout à l'heure un petit peu déjà, que c'est Jean qui a écrit cet évangile. il n'y a pas une phrase du type récit ou évangile de Jésus selon Jean qui a vécu auprès de lui. Il n'y a pas de salutation. Moi, Jean, l'apôtre d'Éphèse, comme dans une lettre. Par contre, la tradition, l'histoire de l'Église a reconnu que cet évangile a été écrit par Jean dès le IIe siècle. Irénée écrit à la fin du IIe siècle dans son ouvrage « Contre les hérésies ». Ensuite, c'est vers 180 à peu près, ensuite Jean, le disciple du Seigneur, le même qui reposa sur sa poitrine, a publié lui aussi un évangile durant son séjour à Éphèse. Irénée tenait cette information de Polycarpe, qui avait été disciple de Jean. En fait, Irénée fréquentait la famille de Polycarpe, et déjà enfant, il était avec Polycarpe, et Polycarpe a été contemporain de Jean, a été disciple de Jean. Donc c'est quand même tout cela à une époque où la transmission orale, la capacité de la mémoire, la tradition était bien plus importante que de nos jours. Donc c'est vraiment quelque chose de fiable. Tertullien, Clément d'Alexandrie, le canon de Muratori, qui est vers la fin du IIe siècle aussi, tous attribuent cet évangile à Jean, ainsi que Origène, qui fait de même au IIIe siècle. Je crois que le texte aussi lui-même témoigne aussi en la faveur de Jean, même s'il n'est pas explicitement nommé comme auteur. En plus d'être témoin des événements qu'il rapporte, donc ça on l'a lu, Jean 21-24, là c'est ce disciple qui écrit ça, il y a un petit truc aussi, un autre verset intéressant à ce niveau-là par rapport au témoignage oculaire, c'est Jean 19, verset 35. Celui qui rapporte ses faits les a vus de ses propres yeux, et son témoignage est vrai. Enfin, il dit parfaitement la vérité, pour que vous aussi vous croyez, a vu de ses propres yeux. Là, Jean souligne vraiment qu'il a été un témoin oculaire. C'est un témoignage de première main, de quelqu'un qui a vécu auprès de Jésus. Donc, en plus d'être un témoin des événements qu'il rapporte d'un disciple qui a suivi Jésus, on sait qu'il est l'un des 12. Pourquoi ? Parce que les autres évangiles rapportent qu'il n'y avait que les 12 qui ont participé au dernier repas de Jésus avant sa crucifixion, au repas de la scène. Dans l'expression « le disciple que Jésus aimait », voilà, donc on sait que le disciple que Jésus aimait a été avec Jésus, c'est lui qui était près de Jésus qui lui a demandé qui c'est qui va te trahir. Donc on sait que c'est parmi les 12, il fait partie des 12. L'expression le disciple que Jésus aimait suggère qu'il était sûrement un des 3, Pierre, Jacques et Jean, les plus proches de Jésus, qui ont, c'est eux qui ont été au moment de la transfiguration dans d'autres évangiles, qui ont été à la guérison, à la résurrection de Jaïrus. Ça fait, vous savez, Pierre, Jacques et Jean, ils ont eu quelques moments privilégiés avec Jésus. Pierre est souvent présent et nommé avec lui. On voit souvent le disciple que Jésus aimait et Pierre. Donc ce ne peut être que Jacques ou Jean qui, étrangement, dans cet évangile, ne sont jamais nommés par leur nom. En 21, verset 2, on parle des fils de Zébédée, mais jamais de Jacques et de Jean. Et Jean lui-même n'est jamais nommé, ce qui permet à l'évangéliste, au début, de parler de Jean le Baptiste, juste en disant Jean. Il ne dit pas Jean le Baptiste comme les autres évangiles, il dit juste Jean, parce qu'il n'y a que lui. Lui-même ne se nomme pas. Si on part du principe que c'est Jean. Et Jacques étant mort assez tôt en acte 12-2, ça a été un des premiers martyrs, il y avait Huitienne avant, mais comme apôtre, je crois que c'est un des premiers martyrs. Tout converge pour que ce soit bien Jean le disciple que Jésus aimait. Donc l'histoire de l'Église converge, et les Écritures donnent leur appui aussi, ça tient vraiment debout. Quoi. Le disciple que Jésus aimait. Revenons un instant à cette manière qu'a l'auteur de parler de lui-même. On a vu que c'est lui qui rapporte tous les faits sur Jésus. C'est un témoin oculaire et un témoin privilégié des moments clés du ministère de Jésus. Il est présent dans la chambre haute, lorsque Jésus leur lave les pieds. Et c'est celui qui est le plus proche de Jésus. On va lire Jean 13, versets 23 à 25. L'un d'eux, le disciple que Jésus aimait, se trouvait à table juste à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il parlait. Et ce disciple se penchant aussitôt vers Jésus lui demanda « Seigneur, de qui s'agit-il » Donc, le disciple que Jésus aimait juste à côté de Jésus, littéralement, si on avait traduit littéralement, ce serait contre la poitrine de Jésus. En fait, souvent la nourriture est au milieu, les gens étaient allongés, appuyés sur un coude, et puis ils prenaient à manger comme ça, et Jean était juste à côté de Jésus. Comme Jésus était dans l'intimité du Père et nous le fait connaître, en Jean 1, 18, parallèlement, si l'on peut dire, Jean était le plus proche, le plus intime des disciples de Jésus et nous le fait connaître. Comme Jésus nous fait connaître le Père, on pourrait peut-être dire que Jean nous fait connaître Jésus, inspiré par le Saint-Esprit, mais quand même, il a vécu quelque chose avec Jésus, il était proche de Jésus. Il est présent au pied de la croix aussi. En Jean 19, versets 26-27, lorsque Jésus souffre et accomplit ce pourquoi il est venu, c'est le seul homme mentionné avec les femmes et qui a vu et à qui Jésus va demander de prendre soin de sa mère. Il y avait des femmes et puis il y avait Jean. Ouais, alors qu'ils savent que Jésus s'apprête à quitter le monde, Jean avait suivi jusque-là. Alors peut-être que c'était le plus jeune qui pensait qu'il restait moins, mais quand même il était là. Il est présent jusqu'au bout, il est témoin oculaire, il insiste dessus, alors on l'a vu tout à l'heure. Hein. Lorsqu'on vient percer Jésus pour s'assurer qu'il est bien mort, en Jean 19, 35, on va le relire parce que c'est quand même intéressant ce passage. On va le relire encore une fois. Celui qui rapporte ses faits, les abus de ses propres yeux, son témoignage est vrai. Il sait parfaitement qu'il dit la vérité pour que vous aussi vous croyiez. En effet, tout cela est arrivé pour que se réalise cette parole de l'Écriture. Aucun de ses os ne sera brisé. De plus, un autre texte déclare, ils tourneront les regards vers celui qui s'est transpercé. Donc, on voit que, en plus d'être témoin oculaire, il est conscient, en tout cas quand il écrit son évangile, l'a-t-il été sur le moment même, peut-être pas, mais rétrospectivement, le Saint-Esprit lui a rappelé tout ça, et l'a enseigné, il est vraiment conscient que ce ne sont pas des événements ordinaires auxquels il assiste. C'est-à-dire que ce n'est pas une crucifixion parmi tant d'autres, à une époque où on en a connu beaucoup. Ce n'est pas la crucifixion d'un faux messie, d'un révolté, d'un illuminé qui a échoué. En plus d'être témoin oculaire, le disciple que Jésus aimait est capable de donner une signification théologique. Qu'est-ce que ça dit de Dieu? Qu'est-ce que ça dit de Jésus à ce qui est en train de se passer? Là, la mort de Jésus accomplit les Écritures. Jésus n'a pas les os brisés, comme l'agneau de Pâques n'avait pas les os brisés. Donc, c'est aussi un des premiers témoins du fait que le tombeau est vide. En Jean 20, on va lire le verset 2. Alors elle courut, c'est Marie de Magdala, alors elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et au verset 8 et 9, alors l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau où il vit. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus venait ressusciter. Ouais, l'autre disciple, c'est le disciple que Jésus aimait, excusez-moi. Alors l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier, parce que c'est le disciple que Jésus aimait qui est arrivé le premier, c'est qui a été le plus rapide, entra à son tour dans le tombeau, il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter entre les morts, comme l'avait annoncé l'Écriture. Donc il fait partie des tout premiers témoins du tombeau vide, de la résurrection. Enfin, pas encore la résurrection. Enfin, Jésus n'est pas encore apparu, mais il est témoin du tombeau vide. Il est aussi présent lors de la restauration des disciples par leur maître, et particulièrement celle de Pierre après son reniement. Si on lit Jean 21, verset 7, le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » Ils sont sur la barque en train de pêcher, ils n'ont rien pris. Puis Jésus leur dit de jeter le filet. Vous vous rappelez, puis il y a une pêche miraculeuse. Et celui que Jésus aimait, Jean donc, le reconnaît avant tout le monde. Le lien qu'il unissait à Jésus lui donne une perception spirituelle, une acuité spirituelle qui lui permette de reconnaître le Seigneur avant les autres. Et en Jean 21, qui suit Jésus quand il marche avec Pierre? Quand Pierre part avec Jésus qui marche sur le rivage, qui va le suivre en premier? Ben Jean encore, le disciple que Jésus aimait. 21-20, Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait, il marchait derrière eux. C'est ce disciple qui, au cours du repas, voilà, ça continue. Jean Vanier, l'auteur catholique, nous dit, je cite parce que je trouve ça très beau, l'auteur parle de lui comme du disciple bien-aimé. Il n'utilise jamais son prénom, ce qui est significatif. Il ne parle de lui qu'en relation à Jésus, comme si sa vraie valeur et son identité découlaient de cette relation. Ceci explique tout ce que l'on vient de voir, hein, les moments clés de la vie de Jésus, où se tenait le disciple qu'il aimait. Voilà un petit peu pour le contexte général. Alors, comment débute cet évangile? Par les premiers 18 versets, comme on appelle le prologue, avant d'arriver à Jean-Baptiste en tant que tel. Donc, c'est un prologue qui plonge ses racines dans l'éternité de Dieu. Il n'y a pas d'évangile ou de récit de nativité chez Jean, mais une introduction à celui qui est nommé la parole. On va lire les 18 premiers versets. Au commencement était celui, alors c'est version de Semeur, hein, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut envoyé par Dieu. Il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui a la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement. Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Premier verset, au commencement, était celui qui est la parole de Dieu. Il y a un parallèle évident avec Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa. On voit que la parole est agent de création. Il n'y a pas de justification de Dieu, d'explication à son existence. Idem pour la parole, elle est au commencement. Hein. Comme Dieu en Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa, et là, c'est un peu la même chose. Elle nous est présentée éternelle avec Dieu, et elle-même Dieu. Le Dieu un et unique, et à la fois une communauté d'Israël, et un, et communautaire à la fois. De toute éternité, il y a une relation au centre de l'univers. Il y a une communauté relationnelle. Dieu est un et communauté à la fois. La parole de Dieu, si on revient à Genèse aussi, je fais juste quelques parallèles là, et Dieu dit, et chaque fois, hein, c'est Dieu crée par sa parole, et là on voit une personnification de la parole. C'est quelque chose qui est souvent utilisé dans la littérature juive. En Proverbe 8, on voit la parole qui joue avec Dieu, la sagesse qui joue avec Dieu, qui fait les délices de Dieu, quoi. Donc ici, il y a une personnification de la parole, qui est en fait la seconde personne de la Trinité, le Fils. Quand Jésus va parler dans l'Évangile, ben c'est Dieu qui parle. Quand Jésus agit, c'est Dieu qui agit. Cela va être sans cesse répété tout au long de cet Évangile. La parole de Dieu aussi, on continue un peu à un attribut unique, qui appartient à Dieu seul, qui est incommunicable. Il y a des attributs qu'on peut communiquer, que Dieu peut nous communiquer, son amour, sa bonté, sa patience. Mais là, en lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Donc il a la vie en lui-même, quoi. Sa vie ne dépend d'aucun autre. Nous, ou les anges, notre vie est dépendante de Dieu. Nous, on a besoin d'eau, d'air. C'est Dieu qui nous fait vivre. Seul Dieu a la vie en lui-même, ne dépend d'aucune cause, mais est lui-même source et cause de toute autre vie. Hein. Cette parole de Dieu nous est aussi présentée comme la lumière que les ténèbres n'ont pas étouffée. Alors ça dépend des versions. N'ont pas étouffée, n'ont pas vaincue. Hein. C'est-à-dire vaincue. Et tout l'évangile de Jean va nous décrire cette tentative des hommes de se saisir de la lumière sans succès. D'ailleurs, le prologue, j'ai oublié de le dire, ça, le prologue tout entier, en plus de nous présenter la parole de Dieu, qui elle est, nous dévoile aussi tout le déroulement de l'évangile de Jean. Dans ces 18 versets, on va voir tout l'évangile de Jean. Il y a une introduction avant, dans l'éternité, ce qui s'est passé. Dieu a envoyé, on voit parler de Jean-Baptiste. Après, on voit les gens qui acceptent, ceux qui reçoivent, ceux qui acceptent, ceux qui refusent, ceux qui acceptent. On a vraiment tout l'évangile qui est décrit en quelques mots là. Et tous ces versets, on pourrait trouver des parallèles dans tout l'évangile chaque fois. Alors, Jean le témoin, on voit, pas Jean... Donc là, il n'est pas dit Jean-Baptiste, parce qu'on n'a pas besoin de différencier de l'apôtre Jean, qui n'est pas nommé Massilien dans cet évangile, introduit dans les versets 6 à 8. Et il est présenté, on va le relire, comme quelque chose d'intéressant, comme le témoin de la véritable lumière. Hein. Jean-Baptiste, un homme paru, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Alors, il y a deux points intéressants ici. On parle de témoin. L'évangéliste utilise un vocabulaire... L'évangéliste, et Jean souvent va utiliser un vocabulaire judiciaire qui va revenir tout au long de l'évangile. Il parle de témoin. On dirait qu'il y a comme un procès cosmique, où Dieu est à la fois, où Jésus est à la fois témoin et juge, un juge qui peut gracier ou condamner selon comment on se positionne par rapport à lui. Et l'idée de témoignage va être là tout le long de Jean. Tout le long de Jean. On va le voir avec la Samaritaine qui va témoigner, avec à un moment Jésus va parler de tout ce qui témoigne pour lui, ses propres œuvres, Jean le Baptiste, les Écritures. Enfin, il y a toute une série de témoignages. Et on dirait qu'il y a comme un vocabulaire judiciaire qui est présenté là-dedans. Et puis l'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que la parole de Dieu est présentée comme la véritable lumière. Et alors, c'est pas la véritable en opposition à une fausse lumière hein, dans l'évangile de Jean, mais c'est plutôt la véritable en tant qu'ultime, en tant que parfaite. Les autres lumières avant, c'est des prototypes, on va dire. Là, c'est le modèle final. En parlant en technique, là, ça fait bizarre de dire ça, mais les lumières précédentes, celles des prophètes, celles des fêtes religieuses juives qui rythmaient la vie d'Israël, celles de la loi, celles de Jean le Baptiste, qui apportent elles aussi un éclairage sur la parole de Dieu, sur Jésus, ne sont que des anticipations, des avant-goûts de la véritable lumière, de celle qui accomplit toutes les promesses de l'Ancien Testament. Tout ce que Dieu avait promis. L'évangile de Jean m'a montré qu'en Jésus, toutes les promesses de l'Ancien Testament sont accomplies. Si on lit Jean 5, en revenant pour Jean-Baptiste, vous allez voir ce que Jésus dit. Jean 5, verset 32 et suivant. Bien sûr, si j'étais seul, Jésus qui parle, si j'étais seul à témoigner à ma faveur, mon témoignage ne serait pas valable. Mais j'ai un autre témoin, je sais que son témoignage est vrai. Vous avez envoyé une commission d'enquête, vous voyez toujours l'idée de procès, il y a des commissions d'enquête, il y a des témoignages, un témoin qui va dire qu'est-ce que la vérité est. Jésus se présente à Pilate aussi plus tard comme celui qui le témoigne de la vérité. Vous avez envoyé une commission d'enquête auprès de Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, je n'ai pas besoin d'un homme pour témoigner à ma faveur, mais je dis cela pour que vous, vous soyez sauvés. Oui, Jean était vraiment comme un flambeau que l'on allume pour qu'il réponde sa clarté. Mais vous, vous avez simplement voulu, pour un moment, vous réjouir à sa lumière. Quant à moi, j'ai à ma faveur un témoignage qui a plus de poids que celui de Jean. C'est celui des œuvres que le Père... Voilà. Donc, on voit que Jean était déjà un flambeau, était une lumière, mais que Jésus est la vraie lumière, la véritable lumière, l'ultime, celle qui remplace toutes les autres et il n'y aura pas d'autre. Ce prologue nous donne aussi des éclairages. Il donne au lecteur que les contemporains de Jésus n'avaient pas toujours. Hein. Nous savons d'où il vient grâce au prologue. Et c'est une des raisons qui font croire aussi à certains que cet évangile a été écrit pour des croyants, pour une communauté de croyants. Certains voient le prologue un peu comme une confession, comme un petit peu, ouais, une sorte de confession de foi en même temps, quoi, en même temps qu'il annonce tout l'évangile. Dont nous savons d'où il vient. Dans l'ensemble, la parole de Dieu, celle qui a créé le monde, n'a pas été bien accueillie. Là, si on lit les versets 10 et 11, on se rend compte que celui qui a la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Là, les siens, c'est le peuple juif, ça se parle d'Israël. Hein. Et nous savons même que cela finit à vue humaine sur une croix et dans un tombeau. La vue humaine, évidemment. Hein. Ceux qui sont arrêtés juste sans voir le reste. Mais, au verset 12, il y a une phrase charnière. Certains pourtant l'ont accueilli et ont cru en lui, et à tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Si on prend tout l'évangile de Jean, du début jusqu'à la fin du chapitre 12, il y a le ministère public de Jésus, qui à la fin va finir par un constat, un peu comme une première conclusion, un constat d'incrédulité générale, avec malgré tout certains qui ont cru, et un dernier appel de Jésus à la foi. Et à partir du chapitre 13, on voit Jésus qui passe du temps avec ses disciples, on voit le discours d'adieu, la prière, et puis on voit la passion de Jésus, la résurrection, puis il repasse du temps avec ses disciples après. Mais on dirait qu'il y a comme deux parties dans l'évangile de Jean. Une partie du ministère public, puis après une partie où Jésus se consacre à ceux qui ont cru. Hein? Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui, et à tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Donc à partir du verset 12 jusqu'au verset 18, on peut lire ce qui s'est passé pour ceux parmi les siens qui l'ont reçu favorablement. Au verset 13, ce n'est pas par une essence naturelle, ni si l'on pêche d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Déjà, on peut voir qu'il s'adresse à des lecteurs juifs. Vous rappelez-vous, on peut voir que le fait d'être juif ne faisait pas d'eux des enfants de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir. Mais c'est la croyance en Jésus qui faisait le fait qu'on était sauvé, qu'on appartenait au peuple de Dieu, à partir de la venue de Jésus. Ça confirme ce qu'il est dit à Nicodème, déjà. Vous rappelez, Nicodème. Nicodème, si on lit le verset 3... Chapitre 3, verset 1, il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens, c'était un chef des juifs. Après, on lit au verset 10, « Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela ?» Il répondit Jésus, on voit que c'est un membre du parti des pharisiens, un chef des juifs et même un enseignant d'Israël. Et Jésus lui dit, au verset 3, c'est connu, Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc on voit que cette naissance, dont il est parlé au verset 13, ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qui le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Cette adoption ne peut venir que de Dieu, par son initiative. Elle passe par la foi, par croire en la parole de Dieu, en celui que Dieu a envoyé. C'est ce que nous dit Jésus tout le long de son évangile. Il y a un verset qui le fait beaucoup sortir, c'est Jean 6, verset 29. Ça ressort beaucoup là. Alors, je commence à Jean 6, 27. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Que Dieu attend de nous, lui demandera-t-il encore. Comme Jésus avant dit, travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle, ils répondent, que devons-nous faire? Il continue dans ce truc et Jésus leur dit, l'œuvre de Dieu, lui répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et ça peut être lu de différentes manières, ça peut être lu que c'est Dieu qui va faire cette œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Donc c'est Dieu qui va produire cette œuvre dans le cœur des gens, qui va transformer le cœur des gens et leur volonté va suivre. Et c'est ce qu'il dit au verset 13, ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, encore par la volonté d'un homme qu'ils sont venus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Donc c'est l'œuvre de Dieu qui fait qu'on va croire à Jésus. Tout cela va être développé dans tout au long de l'évangile, où l'on verra des gens croire ou rejeter de plus en plus Jésus. Le parallèle qu'on pourrait faire pour nous et pour tout le monde actuellement, où là ça s'adresse à des juifs, mais nous en tant que chrétiens, ce n'est pas parce que nos enfants sont dans une famille chrétienne, s'ils ne naissent pas de Dieu, voilà, il faut qu'ils rencontrent avec Jésus-Christ, quoi. Évidemment. Après avoir vu la parole comme agent de la création, on a vu un petit peu du salut aussi, là, on va voir la parole comme agent du salut. Et ça correspond de toute façon aux deux grands actes de Dieu dans toute l'histoire du salut, dans toute l'histoire de la Bible, dans toute l'histoire, les deux grands actes de Dieu, c'est la création et la rédemption. Et entre-temps, l'acte de l'homme, c'est la chute, là. Il y a création, chute, rédemption. On veut dire que les deux gros actes de Dieu, les deux actes principaux, c'est création et rédemption. Et chaque fois, ça se fait par le Fils. La création a été faite par le Fils. Et le salut va se faire par le Fils. Dieu donne la première place au Fils. Donc, dans les versets 14 à 18, nous allons voir ce qui s'est passé pour ceux qui ont cru en lui. Au verset 14, pour la première fois du prologue, l'incarnation, Dieu qui devient homme, est clairement exprimé. On le voit, celui qui est la parole est devenu homme, il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Il a vécu ou elle a habité parmi nous, bon, c'est une traduction, c'est compliqué de traduire littéralement peut-être, mais littéralement dans le grec, c'est la parole a tabernaclé parmi nous, a dressé sa tente parmi nous. À quoi cela fait référence? Tout simplement à la tente de la rencontre dans l'Exode, rencontre de Dieu avec son peuple. Comme la gloire de Dieu habitait la tente de la rencontre, c'était l'endroit où l'on pouvait rencontrer Dieu, où l'on pouvait recevoir le pardon de Dieu, et bien depuis la venue de la parole qui s'est incarnée, nous avons accès à la gloire de Dieu par le Fils. C'est par lui qu'on entre dans la présence de Dieu, par lui qu'on reçoit le pardon. De toute façon, les deux sont liés. Pour rencontrer un Dieu saint, il faut être pardonné. Plénitude de grâce et de vérité. C'est ainsi qu'il qualifiait la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Et au verset 15, on continue. Après, au verset 15, il y a un retour au témoin Jean qui dit en parlant de la parole incarnée, « Celui qui vient après moi m'a précédé car elle existait déjà avant moi. » Alors déjà, les 5 premiers versets du prologue nous présentaient la parole éternelle et après son témoin. Et là, c'est le témoin lui-même dont l'importance va être décrite au verset 19 et suivant, si on continue, juste après le prologue. C'est dans le témoin lui-même qui rappelle que la parole existait avant lui, même si son ministère, le ministère de Jésus, a suivi celui de Jean, le Baptiste. Bon, nous, on sait, parce qu'on lit ça, on sait qu'il y a le prologue avant. Mais quand Jean, le Baptiste, a parlé pour la première fois comme ça, plus tard, dans les autres versets, il leur a dit, « Celui qui vient après moi m'a précédé car il existait déjà avant moi », il disait déjà quelque chose d'étonnant sur Jésus, quoi. Il disait déjà quelque chose d'étonnant sur l'éternité du Fils, quoi. Le verset 16, « Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. » Et littéralement, en fait, pareil, c'est « Nous avons tous reçu de sa plénitude. » Donc, ça nous ferait faire un petit retour au verset 14, où il disait « Celui qui la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Et au verset 16, « Nous avons tous été comblés de ses richesses. » C'est « Nous avons tous été comblés de ses plénitudes. » Plénitude de grâce et de vérité. Plénitude de grâce et de vérité, en effet. Cette plénitude de grâce et de vérité dont les disciples, les croyants, l'ont reçue de Jésus, qui va être pour la première fois citée au verset 17. La première fois que Jésus-Christ est cité en tant que tel, dans ce prologue. Parce que là, c'est la parole, c'était la véritable lumière. Enfin, là, on voit Jésus qui est cité. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Et dans ces quelques versets-là, on voit que Moïse et Jésus-Christ sont comparés. Et cela sera le cas plusieurs fois tout au long de l'évangile de Jean. La loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On voit aussi que la présence de Dieu était dans la tente de la rencontre, dans ces quelques versets, elle est pleinement en Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, à la fin, au verset 18, ça fait référence, pas même Moïse, qui a demandé à le voir, qu'il n'a pas vraiment vu. Le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Ces comparaisons ne dénigrent pas du tout Moïse, Jésus ne le fait jamais, mais montrent le plein accomplissement de ce en quoi espérait Moïse. Plein accomplissement qui est en Jésus-Christ. Si on lit Jean 5, il y a une discussion de Jésus avec les pharisiens qui lui reprochent de ne pas respecter le sabbat, et qui mettent Moïse en avant. Et Jésus leur dit, chapitre 5, versets 45 et 46, « N'allez surtout pas croire que je serai moi votre accusateur auprès de mon Père. C'est Moïse qui vous accusera. Oui, ce Moïse même en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous l'aviez réellement cru, vous m'auriez aussi cru, car il a parlé de moi dans ses livres. » On va retourner au début du verset 16 du prologue. Comblés de ses richesses, donc je vais le relire, nous avons tous été comblés de ses richesses et déversés sur nous une grâce après l'autre. Donc comblés de ses richesses, voilà. Si on revient au verset 14, donc comme je dis, cette plénitude, c'est une plénitude de grâce et de vérité, plénitude qui se retrouve dans la gloire du Fils envoyé par le Père. Et nous allons voir plus précisément. Quelle est cette gloire un peu plus tard, hein, l'aspect de gloire, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si on lit la deuxième partie du verset 16 et le verset 17, regardez. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, dans certaines Bibles, il n'y a pas de le en effet. Certains ont rien, d'autres ont car. Dans le grec, il y a un mot qui peut se traduire par en effet, par car, par et. Donc il y a un lien entre il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Quel est le lien entre ces deux versets-là? Eh bien, certains ont traduit, certains disent qu'on pourrait traduire, beaucoup interprètent, une grâce après l'autre, on pourrait plutôt le traduire presque comme une grâce à la place d'une autre. Ou une grâce au lieu d'une autre. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être, je vais relire. Nous avons été combien si riches s'il a déversé sur nous une grâce à la place d'une autre, ou une grâce au lieu d'une autre. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Don Carson, je cite ce qu'il dit, il dit que cela voudrait dire que la grâce et la vérité qui sont venues par Jésus remplacent la loi présentée comme une manifestation antérieure de la grâce. La loi, elle pointait vers Jésus-Christ. La loi, si on la prend comme toute la révélation de l'Ancien Testament, elle parlait de Jésus-Christ. Maintenant qu'il est là, sa venue supplante l'ancien don de la loi. La loi a été donnée, c'est un don. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est inséparable sa personne. Il est venu, il s'est incarné. Elles sont incarnées par Jésus-Christ. Et elles sont la révélation de qui est Dieu. Seul Jésus-Christ a vécu dans l'intimité de Dieu et peut parfaitement nous le révéler. Mais le dernier verset, la personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Et on revient au verset 1, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Même Moïse n'a pas vu Dieu, comme Jésus-Christ l'a vu, comme Dieu, le Fils unique, l'a vu. C'est pour cela que Jésus nous révèle Dieu. Il nous l'explique. Nous l'a révélé, on pourrait dire qu'il en fait l'exégèse. Il est en train de nous expliquer qui est Dieu, et il va le faire tout au long de l'Évangile. Donc je l'ai déjà dit un petit peu ça, mais quand Jésus parle, agit, réagit, quand il a tel comportement face à telle situation, c'est Dieu que nous voyons agir, se comporter, parler, ressentir. Si on veut connaître Dieu, plongeons-nous dans les Évangiles, regardons comment est Jésus. Nous verrons comment est Dieu, quoi, tout simplement. Donc revenons à la définition de la gloire de Dieu. Et au fait que personne n'a pleinement vu Dieu, sinon le Fils unique, Dieu le seul engendré. Pour cela, on va tourner en Exode 33 et lire les versets 12 à 23. Exode 33, versets 12 à 23. Moïse dit à l'Éternel, « Écoute, tu me demandes de conduire ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner. Pourtant, tu m'avais dit, je t'ai choisi personnellement et tu jouis de ma faveur. Eh bien, si j'ai réellement j'ai obtenu ta faveur, veuille me révéler tes intentions et fais-toi connaître à moi. Alors j'aurai vraiment ta faveur. Et puis considère aussi que cette nation-là, c'est ton peuple. » Dieu répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai une existence paisible. » Moïse reprit, « Si tu ne viens pas avec moi, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas quitter ce lieu. À quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur pour moi et pour ton peuple, sinon si tu marches avec nous? Et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples de la terre. » Alors l'Éternel répondit à Moïse, « Parce que tu jouis de ma faveur et que je t'ai choisi personnellement, je t'accorde aussi ce que tu viens de me demander. » Là-dessus, Moïse reprit, « Permets-moi de contempler ta gloire. » Et regardez la réponse de Dieu, et Dieu lui répondit, « C'est ma bonté tout entière que je veux te montrer. Et je proclamerai devant toi qui je suis, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié, mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. » L'Éternel dit encore, « Il y a ici un lieu tout près de moi. Tiens-toi debout sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Puis je te retirerai ma main et tu me verras de dos, mais personne ne peut voir ma face. » Donc c'est ma bonté tout entière que je veux te montrer. Donc c'est l'essence même de son caractère, de sa nature. Lorsque Moïse demande d'avoir la gloire de Dieu, c'est ma bonté tout entière que je veux te montrer. Et au verset 20 à 23, on a vu que Dieu précise à Moïse qu'il ne pourra pas le voir face à face, dans un creux de rocher, couvert par la main de Dieu. Puis si on continue un peu au chapitre 34, versets 5 à 7, donc Dieu tient parole, comme toujours, et il montre sa gloire à Moïse. On va lire les versets 5 à 7. « L'Éternel descendit dans la nuée, il se tint là, près de lui, et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant, « L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre à la colère et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la millième génération et je pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent. Mais ça continue, ouais, voilà. Donc on voit le contraste entre la bonté de Dieu et sa sévérité, mais surtout, parce qu'on voit 1000 générations ou 3 générations, hein, on voit le contraste, puis on le voit dans tout le reste, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. On voit vraiment une grosse différence. Mais surtout, ce qui est intéressant pour notre présente étude de l'évangile de Jean, c'est que les termes « riche en amour et en fidélité », hein, au verset 6, « lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité », sont exactement les mêmes utilisés pour Jésus quand il est question de grâce et de vérité. « Amour et fidélité » en hébreu, ça a été traduit dans l'Ancien Testament grec, dans la Septante, par les mêmes mots qui sont utilisés dans l'évangile de Jean écrit en grec et qui parlent de grâce et de vérité qui sont menés par Jésus-Christ. C'est clair ce que je raconte ? Mmh. Amour et fidélité, la Septante ont pris les mêmes mots qu'on a eu dans l'évangile de Jean, grâce et vérité. De la pleine révélation de Dieu est en Jésus-Christ. Donc, cet amour et cette fidélité sont venus par Jésus-Christ, la grâce et la vérité, et les donnent la manifestation pleine et entière du caractère de Dieu, sa gloire même. Si Dieu use de grâce et de vérité, d'amour et de fidélité envers moi qui suis pécheur et ne le mérite pas, s'il use d'amour et de fidélité, alors je lui dois tout, et à lui seul toute la gloire. C'est la glorieuse grâce de Dieu. Si c'est pas grâce, c'est gloire à Dieu. Si c'est pas mes efforts, c'est un peu gloire à moi. C'est pour ça que, par exemple, le fameux verset de Jean, très connu, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », tout ça, ça ne veut pas dire que le monde est aimable. Ça veut dire que Dieu est vraiment plein d'amour, parce qu'il aime au monde qui est hostile. La gloire revient à Dieu, pas du tout au monde. Alors, tout au long de l'évangile, après, cette gloire, Jésus-Christ va la manifester de plusieurs manières, par ses signes miraculeux, premièrement. Alors, juste une petite parenthèse, Jean est le seul à parler de signes miraculeux, et pas simplement de miracles. Et puis, ces signes, on le verra la prochaine fois, sont ou suivis, ou des fois, ça peut être inverse, mais la plupart du temps, il y a le signe, puis toute une explication, après, tout un discours de Jésus. Ils ne sont pas juste là pour faire un miracle. Donc, par signe miraculeux, on le voit par exemple, Jean 2, 11. C'est le premier signe à Cana. Jean 2, 11 nous dit, donc ils viennent de faire le miracle de l'eau changée en vin. C'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire à ses disciples crus en lui. Au travers de tous les signes miraculeux qui sont autant de manifestations du caractère de Dieu, qui pointent vers qui est Jésus et qui est le Père. Parce que quand on voit Jésus, on voit le Père. Un des plus frappants, parce que je saute ceux du milieu, mais j'en viens directement à Jean 11, parce que c'est la résurrection de Lazare quand même. Jean 11, verset 4, quand Jésus a pris la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. » Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Et le verset 40 nous dit, Jésus lui répondit à Marthe, là il répond à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Non. Mais ceux qui ont vu la gloire de Dieu, là on parle de la résurrection de Lazare, les apôtres n'ont pas simplement vu avec leurs yeux, ils ont aussi eu un regard de foi. En effet, certains ont vu Lazare ressuscité. Quelle a été leur réaction? Ils ont voulu le tuer, en plus de Jésus, pour supprimer la preuve de qui était Jésus. Et pourquoi? Ben, la réponse, on l'a en Jean 12, verset 42-43. Et pourtant, même parmi les dirigeants, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'osaient pas le reconnaître ouvertement, de peur d'être exclus de la synagogue, car ils tenaient davantage à l'approbation des hommes qu'à celle de Dieu. Peut-être que dans vos traductions, vous avez « Ils aimaient davantage la gloire des hommes que celle de Dieu. » Qui dans le thème de la gloire, c'est plus... voilà. Est-ce que c'est la gloire ou est-ce que c'est celle de Dieu? Et finalement, c'est souvent le bas qui blesse dans l'évangile. Est-ce qu'on va vouloir reconnaître que nous avons besoin d'un sauveur ou est-ce que nous tenons à nous sauver nous-mêmes? Donc c'était avec les yeux de la foi. Des yeux qui poussent à confier sa vie en Jésus-Christ. Croire, Mais ce n'est pas seulement intellectuellement, mais par une démarche existentielle. On se confie en Jésus. Alors ça ne veut pas dire que c'est un saut dans le vide. Hein. On voit que les évangiles sont un récit avec des fondements historiques. Mais c'est plus que cela. C'est, il va falloir un moment confier nos vies en Jésus-Christ. Hein. Donc, et à quel moment dans l'évangile de Jean, la gloire du Fils est pleinement manifestée? C'est-à-dire à quel moment on voit pleinement son caractère de grâce et de vérité? Ben, le moment principal, c'est à la croix. Lors de son dernier discours, lors de son repas d'adieu avec ses disciples, regardez ce que Jésus lui-même dit. En Jean 13, versets 31-32, Judas vient de sortir pour accomplir sa trahison. Et quand il fut parti, verset 31, quand il fut parti, Jésus dit, « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme éclate et Dieu va être glorifié en lui. Puisque Dieu va être glorifié en lui, Dieu à son tour va glorifier le Fils de l'homme en lui-même et il le fera bientôt. » Et là, on est juste proche de la croix. On est dans le dernier discours avant la croix. Jésus sait qu'il s'en va à la croix. Il le dit au verset 13, verset 1, c'était juste avant la fête de Pâques. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter son monde pour s'en aller auprès de son Père. Donc Jésus est tout à fait conscient de cela. Il dit que c'est là que sa gloire va être pleinement manifestée. La dernière prière de Jésus, à la fin de son discours, juste avant, il s'arrête avant de franchir le torrent du Cédron. Et le premier verset du chapitre 17, si je ne me trompe pas, ou 17.1, il nous dit, la dernière prière avant la passion, « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Mon Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. » La croix est toute proche. C'est à la croix, à la résurrection, que la gloire de Jésus va être pleinement manifestée, que son caractère, plénitude de grâce et de vérité, va être pleinement révélé. Et là, plus qu'ailleurs, à l'époque de Jésus déjà et de tout temps, il faut que Dieu nous donne les yeux de la foi pour comprendre que cette crucifixion n'était pas seulement une injustice, hein, la plus grande qui soit, hein, mais la plus grande marque d'amour et de fidélité de Dieu envers son peuple. Si, et ça nous arrive tous par moments dans nos vies, ça peut nous arriver, si nous doutons de la bonté de Dieu, de son amour, de sa fidélité, regardons à la croix, c'est là qu'il les a pleinement manifestés. Et prions pour que, voilà, le but de l'évangile des gens, c'est de réaffirmer les lecteurs dans leur foi en Jésus-Christ et dans leur témoignage. Et c'est bon pour nous, c'est pareil pour tout le long de la vie chrétienne. Vraiment, prions que Dieu nous révèle à nouveau la gloire de Dieu, son caractère de grâce et de fidélité. Et là où on le voit le plus, c'est où? C'est à la croix. Il a pris ma place totalement. On va terminer par une prière. Mais Seigneur, on te remet nos cœurs, on te remercie de la richesse de ta parole, Seigneur. On te remercie de toutes les richesses que tu as déversées pour nous en Jésus-Christ, Seigneur. Et puis on te prie de nous le rappeler, Saint-Esprit, de revivifier nos cœurs toujours et encore par rapport à la personne de ton Fils, par rapport à ce que tu as fait pour nous à la croix, Seigneur. Et merci de nous révéler plus profondément que nous croyons toujours plus et toujours mieux que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en lui nous avons la vie éternelle, Seigneur. Merci parce que la vie éternelle, c'est te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Amen.